voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir l'un des acteurs du changement. Partant de ce constat, Guillaume a voulu l'appliquer à son travail et s'est lancé dans une activité de maraîchage qui aujourd'hui embauche plus de 20 personnes. Dans votre émission La Voix du Kaizen, donnons la parole à Guillaume qui nous parle de son parcours de chef d'entreprise. Avant de parler de ton activité, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, de ta démarche et de ton parcours et de ce qui t'a amené ici à développer du maraîchage.
Dans ma vie, il y a eu un bouleversement. Moi, mes parents étaient des citadins revenus à la campagne avec une basse-cour, des moutons. Et à l'adolescence, j'ai voulu fuir ce monde rural, aller à la ville, ce que j'ai fait. Et ensuite, à arriver le temps du service militaire, j'ai fait une objection de conscience et me suis retrouvé dans une association qui fait de la préservation de milieux naturels en Alsace, le Conservatoire des sites. J'ai retrouvé ce que j'avais vécu dans mon enfance, c'est-à-dire la proximité avec la nature. Et j'ai retrouvé là le goût du travail, le goût de la nature. Et j'ai rencontré des gens qui s'investissaient dans leur travail à bras-le-corps, alors que mes parents étaient plutôt dans une fonction de salarié assez classique, alors que les autres étaient là, ils défendaient des convictions et ils avaient un objectif dans leur travail qui rejoignait en fait leurs aspirations politiques ou éthiques. Et donc ça m'a vraiment plu et je me suis dit que dans ma vie, c'est plutôt vers ça que j'avais envie de me tourner.
Donc là, finalement, tu es riche de deux expériences. Tu as vécu le côté rural, tu as vécu le côté citadin. Arrive l'heure des choix.
Oui, l'heure des choix. Et après cette expérience de retour vers les milieux naturels, j'ai un peu cherché ma voie, d'abord dans le monde forestier. Mais c'était assez difficile parce qu'il faut des diplômes et que moi, j'avais passé l'âge de faire des études. Et donc, j'ai fait une formation pour adultes en agriculture biodynamique. Donc le BPREA ou CFPPA d'Aubernais. Donc ça, c'est une formation. À l'époque, il y avait très peu de formations qui faisaient les bases de l'agriculture en bio. Et celle-là en été, et qu'elle était en plus en Alsace quand même. La particularité, c'était ce lien avec la biodynamie et l'anthroposophie. Donc j'ai d'abord été voir la promotion précédant la mienne, voir qu'est-ce que c'était. Et donc là, j'ai assisté pendant 2 jours à un cours de chimie organique, avec un regard, on va dire, anthroposophique ou holistique. Et donc là, j'ai relié, en fait, tous mes connaissances de lycéen, où on nous apprend un tas de concepts très compliqués, mais en fait, on comprend jamais grand-chose. Et donc là, j'ai vu qu'on pouvait comprendre le monde d'une autre manière, et ça se reliait, en fait, à ce que j'avais appris précédent. Et donc, pour moi, c'était vraiment une richesse intellectuelle forte. Et de me dire, bah ouais, ça me plaît, en fait, trouver ce lien entre ma conception du monde, ce que la science classique m'a appris, et puis en même temps, ma vie professionnelle à moi.
Pourquoi le bio? Comment est-ce que tu es arrivé à la bio, à la biodynamie? C'est quelque chose que tu voulais par opposition au conventionnel, ou un peu par hasard, ou c'était déjà dans ton idéologie d'essayer d'être dans une certaine démarche?
C'est en fait pareil au Conservatoire des sites alsaciens, une confrontation puisqu'on défendait, on protégeait des milieux naturels et à certains moments on devait un peu les défendre contre l'agriculture conventionnelle, contre les pêcheurs, contre les chasseurs qui eux avaient un autre regard sur la nature que celui des écologistes qui lui a un regard un peu de mettre sous cloche. Et d'un autre côté, des agriculteurs conventionnels qui eux ont un regard strictement productif. Et donc, face à ça, de me dire, et c'est un des permanents de l'association qui m'avait dit, en fait, on peut faire de l'agriculture un peu autrement, et cette agriculture-là, conventionnelle, des gens qui font de l'intensif et de la monoculture, ça va doucement diminuer, et les gens vont se tourner vers autre chose, ça peut pas durer très longtemps, quoi. Et donc, de prendre conscience qu'on pouvait faire de l'agriculture autrement, donc ça voulait dire pour moi rester dans ce contact avec le milieu naturel ou les milieux naturels, la nature, l'extérieur. les plantes, parce que j'avais quand même une certaine affinité avec les plantes, et en même temps d'essayer de construire le monde de demain avec un petit peu plus de sens que ce qu'il avait quand j'étais confronté aux aberrations du système classique, quoi.
Ça, c'est intéressant, cette quête de sens, c'est un terme un petit peu à la mode, on essaie de remettre du sens dans sa vie, dans ses actions.
Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que de dire qu'est-ce qui ne va pas chez les autres. Moi, je pense qu'on peut vraiment faire de la production de denrées alimentaires, donc de l'agriculture, tout en respectant le sol, les plantes, le monde vivant au sens large. Et on peut y inclure évidemment les humains dans cette chose-là, quoi. Après, on peut même aller jusqu'aux transactions commerciales, etc. Donc en fait, c'était au début, pour moi, très fort de se dire, en fait, je vivais avec cette idée que l'agriculture biologique pouvait changer le monde. Je le vis encore aujourd'hui. Après, je dirais aujourd'hui, je m'attache à faire de l'agriculture biologique bien et je cherche pas à convaincre les gens. Voilà, je suis pas dans une démarche d'essayer de convaincre les gens. Par contre, j'essaie de bien faire mon métier tous les jours pour mes clients, avec mes collègues, dans le monde d'aujourd'hui, comme je le sens et avec mes choix à moi que j'essaye d'assumer, mes compromis, etc. Quoi.
Comment tu définirais ton métier si on te demande, si ton enfant te demande, papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Alors le mot premier qui vient, c'est maraîcher, parce que c'est quand même le métier premier que je fais, hein, donc c'est on achète des graines, du terreau, on fait pousser des légumes qu'on va vendre aux clients. Après, au sens un petit peu plus large, c'est agriculteur, et si on élargit encore un peu, oui, effectivement, je suis entrepreneur, chef d'entreprise, je suis employeur, etc. Mais mon métier premier, c'est quand même maraîcher.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Depuis combien de temps est-ce que tu exerces le métier de maraîcher et aussi comment est-ce que le bio évolue auprès des consommateurs? Est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de demandes qu'avant? Comment tout ça avance dans le temps?
Ouais, alors le Champ de la Terre, ça c'est une entreprise qui au départ était familiale et à un passage de génération à la fin des années 70, une conversion à l'agriculture biodynamique parce que eux étaient en questionnement et puis ils avaient vu un petit peu tous les travers arriver de l'agriculture conventionnelle. Notamment le maraîchage, surtout en ceinture verte à Colmar, où il y avait de moins en moins de maraîchers, c'était difficile de produire, les grands bassins de production se développaient, les grandes surfaces se développaient. Donc eux ont fait ce choix assez radical et difficile à l'époque de passer en bio en utilisant la biodynamie et de rester sur un réseau de vente direct et surtout de sortir de ce schéma de fonctionnement qui était essentiellement familial pour l'ouvrir vers des gens pas issus du milieu agricole. Dont moi, par exemple.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors, moi, je suis arrivé en 98 au Champ de la Terre. La bio commençait à se développer assez fortement. Elle a continué à se développer très fortement. Je dirais pour le grand bien de beaucoup de choses. On est encore une niche, mais c'est vrai que ce que j'ai vu évoluer, par exemple, c'est le regard de mes collègues maraîchers, où au début c'était « Ah non, mais le bio, ça n'existe pas, de toute façon, tout est pollué, c'est pas la peine de nous la raconter, machin, machine ». Et on est arrivé aujourd'hui à une situation où ça, on l'entend plus du tout, c'est accepté comme un mode de production alternatif. Qui tout le monde a à peu près compris qu'on n'utilisait pas de produits chimiques, qu'on n'utilisait pas d'engrais chimiques et qu'on avait forcément des techniques un petit peu alternatives. On est passé un petit peu de cette agriculture, on va dire, passéiste, ou en tout cas de la vision d'une agriculture passéiste, à une agriculture un tout petit peu, sur certains domaines, un petit peu plus pointue et en fait, sans doute qu'on nous voit un petit peu plus comme une voie d'avenir. Même chez nos agriculteurs conventionnels qui prennent conscience des enjeux environnementaux et des limites d'un système tout productif, quoi.
On va passer du côté du consommateur, donc il lui va choisir de consommer le bio. Est-ce que tu as l'impression qu'au fil des ans, une prise de conscience est faite de part du grand public? Est-ce que les gens sont de plus en plus impliqués dans leur choix, dans leur acte d'achat, dans le pouvoir d'achat? Comment tout ça évolue dans le monde assez complexe dans lequel on vit?
Je pense que globalement, il y a plus de questionnements. Après, le nombre de gens qui se questionnent est plus important, je dirais. Les gens qui veulent consommer des produits ayant, je dirais, pour faire simple, plus de sens, augmentent. Après, c'est des questions toujours. La crise de la vache folle avait amené une grosse vague de questionnements. Les poules et la dioxine avaient amené une grosse vague de questionnements aussi. Et tous les épisodes de problématiques agricoles ramènent effectivement de la conscience un petit peu chez les consommateurs par rapport à cette problématique de en fait ce que je mange, comment c'est produit, par qui, où ça et pourquoi faire quoi. Mais c'est quand même très lié à des événements un petit peu tragiques. Quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Tu me disais au début de cette interview, tu es maraîcher, paysan et chef d'entreprise, donc presque trois casquettes. Je vais m'intéresser à celle du chef d'entreprise. Donc ceux qui viennent te voir, quels sont les profils des salariés ou des postulants, ceux qui viennent et qui ont envie de se lancer dans le maraîchage?
Beaucoup viennent de sont néo-ruraux, c'est-à-dire qu'on a peu de fils d'agriculteurs. On a dans notre équipe aujourd'hui, en tout cas, donc on a deux activités, hein, une activité de production agricole et une activité commerciale. Il y a des gens qui ont un pied dans les deux. Sur la partie production, c'est quand même beaucoup des gens qui n'étaient pas du milieu agricole. Un certain nombre ont fait une formation chez nous, donc en général une formation pour adultes, ou certains une formation tout de suite après les classes de 3e ou de lycée. Donc c'est quand même beaucoup des gens en recherche au départ de changer un petit peu leur vie et de retourner vers la terre et les milieux naturels. On a beaucoup de demandes de gens qui cherchent, on en revient à cette fameuse phrase, à donner un peu de sens à ce qu'ils font, ou en tout cas à œuvrer pour quelque chose qui peut sembler moralement intéressant. Mais les gens qui viennent chez nous se disent en allant travailler là-bas, dans ma vie, il y aura un petit peu plus de sens et je vais œuvrer pour que le monde de demain soit plus cohérent et plus agréable.
Donc souvent poussé par une idéologie.
Oui, très clairement. Souvent poussé par une idéologie. Souvent, les gens chez nous avaient d'abord une première activité ou un premier métier ou une première formation. Donc c'est souvent des reconversions. Je dirais, c'est des gens qui se reconvertissent en général entre 25 et 30 ans, qui là se disent, maintenant je veux faire quelque chose qui me plaît, etc. Donc ils viennent souvent avec une idée qui parfois est assez éloignée de la réalité. Il y en a qui s'accrochent et qui arrivent, il y en a un certain nombre qui, devant les difficultés, se disent, finalement je vais retourner faire autre chose, quoi.
1. Maraîcher. 2. Paysan. 3. Chef d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise? Comment est-ce qu'on gère aujourd'hui une entreprise?
On gère une entreprise, je dirais, par passion, parce que c'est pas. Je crois pas qu'il peut y avoir un autre moteur que la passion. On peut être passionné par la menuiserie ou par d'autres choses. Je pense qu'il faut vraiment aimer, en fait. Pour moi, c'est un amour ou une volonté de se projeter dans le monde et de créer des choses avec les autres, pour les autres, parce que quand on travaille, c'est toujours pour quelqu'un. Et c'est d'aimer faire ça et de se sentir de porter une activité, quoi.
Donc l'entreprise, c'est juste un moyen de pouvoir y arriver.
L'entreprise est un moyen de pouvoir y arriver, tout à fait. C'est on s'accommode des contraintes économiques, on s'accommode des contraintes administratives et des contraintes juridiques, etc., légales, du monde qui est autour, des difficultés pour, en fait, effectivement, comme tu dis, faire ce qui nous anime, quoi.
Je vois l'entreprise à travers ce que tu me dis comme un moyen, parce que souvent on diabolise un petit peu ce terme, l'entreprise, quoi. C'est l'argent, le capital, alors qu'en fait on peut très bien avoir une entreprise avec des valeurs.
Oui, et je dirais le c'est un drame pour moi de voir que dans beaucoup de médias, effectivement, on met les entreprises. Je pense qu'il y a vraiment une différence énorme entre une entreprise avec quelqu'un qui est entrepreneur, c'est-à-dire qui veut entreprendre des choses, et des entreprises qui sont c'est tellement énormes que finalement, c'est deux mondes assez différents, je pense. Pour moi, il y a le monde de l'entreprise avec un entrepreneur à sa tête qui porte quelque chose, et les gens autour, hein, je distingue pas ça, hein. Et une autre entreprise où finalement tout le monde n'est qu'acteur d'une idée qu'on ne sait plus forcément d'où elle vient ni pourquoi, Ouais, je pense que c'est deux mondes assez différents.
Donc peut-être l'entreprise qui est plus axée sur le développement de la croissance et du PIB et celle qui est peut-être plus axée sur le développement de l'humain.
Pour l'entrepreneur, je dirais, c'est vraiment très différent. Une petite entreprise et une très grande entreprise, c'est pas du tout la même chose. Les petites entreprises, effectivement, le gars ou les personnes qui s'en occupent, c'est par passion et la plupart des gens qui y travaillent. Parce que on peut pas être dans un fonctionnement routinier, classique, et nous, on peut pas, par exemple, avoir des gens qu'on doit un tout petit peu surveiller ou fliquer, quoi. Il faut que les gens soient autonomes, qu'ils comprennent ce qu'ils font, qu'ils comprennent le projet, pourquoi ils font ça, etc., et qu'ils soient capables de prendre des décisions à tout moment. Alors c'est évidemment, ça c'est l'idéal. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre quels sont mes desseins à moi et où c'est que je veux emmener l'entreprise dans 15 ans. Mais pourquoi on fait des bottes de radis ? Est-ce que c'est pour un grossiste ou est-ce que c'est pour le marché ? Est-ce qu'on doit en faire 25 ou est-ce qu'on doit en faire 700 ? Voilà, ça c'est des choses où je dirais il faut en fait les gens participe vraiment au projet que moi je le conduis parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, mais c'est pas mon projet, c'est un projet. C'est un projet à taille humaine en fait.
Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que le départ, c'est l'amour de la nature, le respect du vivant qui t'anime. Et au final, tu te retrouves aussi chef d'entreprise. Donc finalement, tu n'étais pas prédestiné à le devenir, mais on peut devenir chef d'entreprise.
Ah oui, oui, on peut le devenir assez facilement malgré soi, sans capital au départ.
Et s'insérer dans un système économique tout en produisant de la valeur saine pour l'homme et pour l'environnement.
Oui, oui. Pour moi, c'était important de pas... J'ai pas cherché à me sortir du monde d'aujourd'hui et à me faire mon petit paradis à moi dans la montagne. J'ai toujours voulu, c'est ça qui me plaît, je l'ai dit, c'est l'interaction entre les êtres humains, la nature, et c'est le monde d'aujourd'hui et le fruit de notre histoire. J'aime ce monde aujourd'hui, mais je veux que demain il soit meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Et donc j'œuvre avec tous mes collègues, on est tous un peu dans cette optique là de se dire le monde de demain, on va tâcher de faire en sorte qu'il soit mieux, quoi.
Et pour finir, qu'est-ce que ce serait qu'une entreprise idéale? Comment elle fonctionnerait?
Une entreprise idéale, j'ai du mal à dire. Je dirais le monde est bien fait et les entreprises sont là en fait pour s'adapter à ce qui est autour d'elles et faire appel à l'intelligence pour comprendre quels sont les besoins aujourd'hui, quels sont les besoins demain de nos congénères et de s'adapter avec les outils qu'elle a et les forces qui sont les siennes pour trouver son activité et continuer à se développer. Donc quelque part, le système d'aujourd'hui, il a ce côté bien, c'est qu'on doit être en adéquation avec les besoins des gens. Si on n'est pas là-dedans, il y a un moment où on prend une gamelle. Voilà. Après, c'est évidemment, il faut utiliser des outils qui peuvent des fois être contre-productifs. C'est sûr que quand je fais un emprunt bancaire, c'est pas la chose qui m'est la plus agréable, de devoir faire appel à du capital. D'un autre côté, de me dire... l'outil que j'achète, il faut qu'il soit performant, il faut qu'il puisse me permettre de faciliter le travail, il faut qu'il puisse me permettre d'amener, je dis n'importe quoi maintenant, des carottes à mes clients et que les clients vont être contents de trouver ces carottes parce qu'elles sont très propres par exemple. Voilà, et de me dire, toute la chaîne en fait est assez cohérente, c'est-à-dire au client, au bout il y a un client qui a envie d'une certaine chose et il va demander quelque part à son maraîcher d'avoir ça, qui lui va se dire, pour avoir ça, il faut que je fasse ça et ça, pour avoir ça et ça, il faut que j'aille voir ma banque, il faut que je construise un bâtiment, il faut ci, il faut ça, il faut un tas de choses. Donc ce schéma-là, en fait, il est pas mal. La vraie question, c'est de quoi les gens ont envie et est-ce que cette envie chez les gens, elle est passagère, futile et dommageable à l'environnement, ou est-ce qu'elle a du sens? Donc, les entreprises ne font que répondre aux demandes des consommateurs. Voilà. Donc, c'est pour moi l'acte le plus politique qu'on puisse faire, c'est quand j'ouvre mon porte-monnaie, à qui je donne des sous. On fabrique le monde de demain avec cet acte-là. Donc, quand je vais acheter du gasoil pour mettre dans mes tracteurs, je sais que toute la chaîne est quelque part négatif pour l'environnement. Aujourd'hui, j'ai pas tellement le choix. Si demain on me propose un gasoil, quoi, avec une source énergétique un petit peu plus correcte, ou des tracteurs qui fonctionnent à l'électricité ou d'autres choses, moi je prends. Mais aujourd'hui, je fais avec ce que j'ai et je dirais, chacun fait ses compromis-là. Mais le geste pour moi fondamental, c'est quels sont les besoins des gens et les entreprises ne font que répondre à ces besoins. Les entreprises peuvent donner du sens à ce qu'elles font, mais le vrai chemin, c'est un chemin intérieur individuel. Et celui-là, voilà, j'invite tout le monde, moi le premier, à se mettre en route et allons-y, quoi.
On va terminer avec la phrase de Gandhi, alors soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Merci Guillaume.
Merci à tout le monde.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.